Bon, passer. Là, c'est moi. Aujourd'hui, je crois que nous allons parler un peu de... Pour le faire, nous allons parler de ce qu'on appelle Salat al-Khawf. Prière, on peut traduire prière de la peur. Après avoir parlé de ce qui concerne la prière du vendredi, on a parlé aussi de Salat al-Istikhara, la prière de consultation, etc. Salat al-Khawf, c'est une... on va dire c'est une sunna wajiba, hein. C'est-à-dire c'est une prière vraiment très recommandée, on va dire, très recommandée, très très recommandée. Une prière de la peur, pourquoi on n'a pas les prières de la peur? Non, c'est pas parce que les musulmans ont peur, c'est bon, on a peur quand on est face à un danger. C'est une prière qui est faite, au moment de la guerre. Moment, c'est-à-dire quand on est au moment de la guerre, que ce soit en plein bataille, hein, en plein combat, ou en dehors de la bataille, ceux par exemple qui sont des gens qui sont amenés à surveiller, hein, c'est-à-dire les avant-gardes, des gens qui sont dans des postes avancés, hein, qui sont en confrontation avec l'ennemi, etc. etc. Même si c'est des gens qui sont amenés à surveiller. Ils ne sont pas là sur le terrain, mais ils sont dans la caserne, ils sont dans un lieu où, c'est comme s'ils sont dans une bataille. Alors, c'est une prière qui ne concerne que les prières obligatoires. D'accord? C'est-à-dire, c'est la prière obligatoire qui va être priée autrement. D'accord? Ce n'est pas une autre prière. Hein, ce n'est pas une prière sur. C'est une prière obligatoire qu'on connaît. Y compris la prière du vendredi. Mais on va la prier autrement que d'habitude. Autrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer le nombre de rak'at, non. Mais vous allez voir que c'est incroyable combien l'islam insiste sur la prière. C'est-à-dire même au moment de guerre, même pendant la bataille, c'est-à-dire on ne laisse pas la prière. C'est extraordinaire. Et on ne laisse pas la prière en groupe. Surtout pour les hommes, l'importance de la prière et la prière en groupe. Si c'est-à-dire on ne laisse pas la prière, même au moment de la bataille, pendant la bataille, alors surtout le groupe, alors que dire au moment où on est à l'aise, aucun problème, etc. Donc c'est très important. La prière, c'est un pilier très important. La première des questions quand la personne aura à répondre au jugement dernier, c'est la prière. Celui qui a accompli la prière a compris la religion. Celui qui anéantit la prière, il a complètement anéanti sa religion. Maintenant, est-ce que celui qui ne prie pas est mécréant ou non mécréant? Il y a des avis quand même qui considèrent que celui qui ne fait pas la prière est un mécréant. Ça existe. Mais ce n'est pas l'avis qui est retenu majoritairement chez tous les savants, surtout aujourd'hui, que le monde musulman passe par des phases très difficiles. C'est-à-dire il faut que la fatwa, on ne la prend pas parce que les gens, ils ont l'habitude de prendre comme ça une fatwa. Ah, l'imam Al-Shafi'i l'a dit, hop, il va la jeter, il faut la fatwa la mettre dans son contexte historique, ce qu'on appelle l'espace-temps, dans son espace. Lieu et espace-temps. À l'époque de l'imam Malik, ou l'imam Shafi, ou Hanifa, où l'islam régnait, il y avait le calife, il y avait c'est l'islam qui gouvernait, hein, le statut, donc tout est islamiquement parlant applicable. Bien sûr, celui qui ne prie pas dans ces circonstances, c'est celui qui ne prie pas, qui habite à la Mecque, qui ne prie pas, n'a pas le même degré de celui qui habite à Tombouctou, ou bien, je sais pas, au Tchad, ou bien en Europe, etc. Donc le statut. C'est-à-dire le péché change, son degré change. Croyez-moi, subhanallah, il y a des gens, avec tout le respect qu'on doit aux gens de la Mecque, que j'admire beaucoup, que j'ai des chouliots qui sont de la Mecque, même chouliots qui sont des grands savants de hadith, mais il y imaginer, il y a des gens, ils habitent la Mecque. L'autre lui dit, moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas prié au haram dans la Mecque. L'autre lui dit, moi, ça fait 3 ans. C'est-à-dire, c'est pas vrai, la concurrence, dans le péché, il habite la Mecque, lui dit, moi, je n'ai pas mis les pieds dans le haram, ça fait 2 ans. L'autre lui dit, moi, ça fait 3 ans. Ça existe. Subhanallah. Moi, j'étais vraiment. C'était des gens qui font la concurrence. Qu'est-ce qui peut rester beaucoup plus longtemps dans le haram? On a vu des gens, ils sont faim. Subhanallah, ils mangent des petits trucs comme ça, et ils restent 24 sur 24. Tellement la prière, elle est multipliée des milliers de fois quand tu fais la prière. Hein, parce que tu es dans le. Même les animaux du haram n'ont pas le même statut. C'est-à-dire, les pigeons qui tournent autour de haram n'ont pas le même statut de pigeons qui sortent de haram. D'accord? Si tu le tues, parce qu'il a. Cet animal-là, il a senti l'apaisement, il est là. C'est-à-dire, si tu le tues, tu as tué, tu as plus de péché que si tu le tues en dehors de. Tout ça pour dire que la prière, elle est très importante. C'est-à-dire que c'est-à-dire le serment, le pacte qu'il y a entre nous et le coup face à la prière, mais celui qui remet en cause la prière, qui l'anime, dit moi, ça n'existe pas, pour moi, ce n'est pas une obligation, parce qu'aujourd'hui, on a des mouftis partout, hein. vous avez des sociologues qui deviennent mouftis, madame, je ne sais pas quoi, l'anthropologie de machin, il vient faire le tafsir, comme j'ai entendu, vu, hein, certaines, comment ça s'appelle, je ne sais pas. Moi, je reviens depuis pour voir l'anthropologie comme moi, elle a commencé à faire tafsir. Moi, j'étais. Ah ouais. Elle a conclu que le fidèle, ce n'est pas une obligation. Je dis, madame, vous êtes mon moufassira, vous avez étudié où? Elle a dit, non, écoutez, c'est un texte. Ah ben, c'est vachement vrai. Elle a un texte, elle dit, ça reste votre avis. Je dis, mais là, vous avez tous les moufassira qui disent pas ce que vous dites. Celui qui nie et remet en cause la prière, il dit que ce n'est pas une obligation. Ou bien il remet en cause, il dit que ce n'est pas une obligation. Tout ce que Allah a dit, c'est une obligation. Et que tous les amants musulmans ont reconnu par consensus que c'est une obligation, il devient kafir. Il devient méfiant. Celui qui remet, celui qui n'applique pas, c'est autre chose. Je reconnais que des zakat, je reconnais que c'est une obligation. Mais moi, j'aime l'argent, ou je n'ai pas le temps, ou offre l'année prochaine, etc. Ça, c'est pas un méfiant. On commet un péché grave, bien il dit pourquoi tu ne pries pas. Vous savez, Inch'Allah, fais-moi du rat. Celui-là, il ne renie pas la prière, c'est pas un mécréant. D'accord? Très attention. Parce qu'on projette, on dit, parce que quand tu dis mécréant, il y a tout un statut qui rentre. Quand on dit dernier mécréant, c'est grave. C'est-à-dire, on ne prie pas sur lui. C'est un, il y a un problème d'héritage qui est posé. C'est-à-dire que s'il est marié à un musulman, il doit être séparé d'elle. C'est-à-dire, il ne faut pas assumer quand on dit mécréant, c'est quelque chose de trop grave. Il faut faire attention de ne pas juste faire avec les gens. Il faut faire tout pour ramener les gens à l'islam. Ce n'est pas pour les pousser. Il y a des gens qui sont contents qu'ils veulent faire rentrer en enfer le maximum de gens et à l'autre, c'est pas du tout. Nos savants, ils font tout pour essayer de récupérer les gens à l'islam. Vous avez l'imam, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, l'imam Dwayne, l'imam Baglan, des grandes sommités, de la doctrine acharite, consumite par. Ils ont parlé même d'un non-musulman qui réfléchit, il se réveille pour matin, il y a sûrement une vérité dans ce monde-là. Je vais faire la recherche pour chercher où est la vérité, quelle est la religion, la vraie. C'est-à-dire là, vraiment une quête sérieuse, il est sincère. Il sort sur lui pour aller commencer à interpeller les gens, hop, il soit humain, avec un accident. Alors pour l'imam Jouin et l'imam Bakalani, il meurt en tant que musulman. À part Kitchahara. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'ils font tout pour ramener, trouver un alibi pour qu'on puisse. Ah, il est musulman. C'est pas le bon de chercher un alibi qui est calme. Ça, c'est la rahma, c'est la clémence de nos savants. C'est pas comme aujourd'hui. La clémence, elle est enlevée malheureusement dans le cœur de beaucoup de. Comment on peut être le premier hadith qu'on nous enseigne tous les dans les sessions de Kassani Hadith Moussachad Bidawali, comme le Coran, par Rouhama ou Irhamum Rahman, ceux qui sont cléments entre eux, le clément sera clément envers eux. Si on n'est pas clément envers nous-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas clément envers nous. Faites très attention. Alors, la Rahma, elle est très importante. quand on veut être dur dans l'application de l'islam, dans la foi, il faut qu'on soit dur vers nous-mêmes. C'est ça la plus importante. Tu veux être strict, sois strict envers toi-même, mais avec les autres. Essaye d'être clément, essaye d'avoir une ouverture. Alors pour revenir à Salat al-Khawf, donc c'est une prière très recommandée que les musulmans prient au moment des batailles, hein, des guerres, etc. Alors, avec des conditions, bien sûr. Premièrement, il faut qu'elle soit pendant la bataille. On est en guerre, on est dans une bataille. Deuxièmement, il faut que la bataille, le djihad, soit légitime. C'est pas que t'as un voisin, t'as un problème avec lui, tu prends tes enfants, on va lui déclarer la guerre avec ses enfants, on fait ça avec trois partants. C'est un problème personnel, là, tu arrives pas un problème. Ou bien quelqu'un, non. Là, c'est une question de. Ça veut dire, on défend la religion, on défend l'islam. Et le djihad n'est pas décrété par le premier venu du quartier, hein, dans le coin. Maintenant, actuellement, tu fais des photos du djihad. Décrété par des savants responsables après une longue réflexion, ils pèsent vraiment le pour, le contre, al-mafsada, al-masra, c'est pas n'importe qui. Il faut des grands savants qui décident et qui voient quels sont les objectifs de la charia. Est-ce que en faisant cet acte-là, il y aura un désordre pire que ce qu'il y a actuellement? Ou bien égal, s'il y aura un désordre égal, c'est interdit. Il faut qu'on passe à quelque chose de meilleur. Au moment où aujourd'hui on voit des fatwas qui sont, on va dire, au plus fin, très attention. C'est très 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 attention. Ces sujets-là sont très délicats. Et en plus, ça ne suffit pas aujourd'hui, surtout sur ces questions-là de djihad, pas djihad. L'outil de fiqh, seulement pur, on va dire purement fiqh, avec ses analyses de Osul fiqh et tout ce qu'on veut, est insuffisant de décrypter une fatwa. Je dis bien, c'est insuffisant, j'assume cela. Il faut qu'il y ait des gens spécialistes, tout, que ce soit autour d'une table, qui sont spécialistes dans tout ce qui concerne la géostratégie, l'économie, la géopolitique, etc., qui parlent des conséquences. Politique, géopolitique, stratégique, économique, d'une guerre ou avec les fuqaha. D'accord ? C'est comme la question aujourd'hui d'un fatwa qui m'a donné une fatwa qui concerne, les clones ou quelque chose comme ça, ou des questions médicales, il faut qu'ils soient entourés de médecins spécialistes pour faire une fatwa comme ça. Ou bien des questions financières, il faut qu'il y ait des spécialistes en finance et en économie pour s'échanger, expliquer bien. Et voir les conséquences de ça. Et le fatih, bien sûr, dans sa parole, c'est très très lourd. Un fatih, vraiment, on va donner un fatih, hein, pas n'importe qui. Donc, aujourd'hui, il ne suffit pas de dire, allez hop, je déclare la guerre à terre, c'est un impie, il me prend mon matière. Non, il faut des gens responsables et compétents pour prendre ce genre de décision. Alors, premièrement, il faut que ce soit une guerre légitime, reconnue, par des savants, etc., etc. Même, c'est-à-dire une guerre contre un ennemi à l'islam, ou bien c'est des musulmans qui s'appellent ça les bourrates. Bourrates, c'est-à-dire que ce sont des musulmans, mais une partie de musulmans qui sort contre le calife, ou bien qui déclare une guerre à d'autres musulmans. D'accord. Alors, ce moment-là, tu as un Coran Karim. Il faut que je le vois. 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 Quand deux groupes de musulmans se battent contre eux, c'est-à-dire essayer de les reconcilier, etc., faire tout pour les reconcilier. Et s'il y a une partie qui dit non, moi, je vais. Alors, ce moment-là, nous dit. Déclarer la guerre à celle qui ne veut pas se remettre à la réconciliation, qui préfère la guerre contre la malgré toi, a reconnu que c'est un groupe de croyants, des musulmans, mais on leur déclare la guerre parce qu'ils ne veulent pas la réconciliation, ils ne veulent pas la paix, etc. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. يوسف قال revient à l'ordre et à ce que Allah عز وجل a ordonné. انما المؤمنون اخوة. Après le long verset, dans le temps, c'était pas le premier, c'était pas long, 18 ou 19 verset, c'est répété par, c'est une sourate, on appelle la sourate de l'éducation. Ça va être des versets éducatifs, etc., etc. Donc, ça c'est le bourrat, hein, le bourrat, c'est ceux qui sortent de l'ordre du calife. Ce que j'aime bien, c'est que les Chinois saoudiens, ils ont une chose extraordinaire, c'est qu'au moment où le califat ottoman, hein, qui est un empire, un grand empire, hein, musulman, la dernière khilafa islamique, hein, qui a été, on va dire, anéanti en 1924, 1926, et c'est l'empire ottoman, c'est son histoire, ça. Le professeur Ansel m'a parlé de cet empire-là. Il a dit le hadith de As-Sahih, sallallahu alayhi wa sallam, « La tuftahanna al-Constantiniyatu, la ni'ma al-amir wa amiruha, wa la ni'ma al-jaysh wa jayshuha. » Constantinople va être ouverte, c'est-à-dire que les musulmans vont entrer, ils vont être parmi l'islam. « Fa la ni'ma al-amiruha, » c'est-à-dire quel grand émir qui va, c'est-à-dire le professeur Ansel fait l'éloge de ce grand émir, Mohamed al-Fatih, qui était le chef ottoman, le fondateur de l'Ottoman, qui est rentré dans Constantinople. Il fait l'éloge, je crois, de cette armée musulmane. Et comme par hasard, c'est des soufis. Hein, c'est des hanafites majoritairement. Vous avez des chafiris, avec le malik, etc. Donc, c'est des gens soufis, ash'ari, maturidi. C'est un embarras, même on dira, pour les wahhabites, les saoudiens. Parce que le professeur s'est fait l'éloge des ash'arites et des ahnaf. Il y en a des wahhabites qui disent, bon, écoutez, Constantinople n'est pas encore, c'est pas encore converti. Voilà, ils ont écrit ça. Elle n'est pas encore musulmane, donc voilà. Le problème, c'est que aujourd'hui, les Saoudiens, entre guillemets, c'est-à-dire les savants saoudiens, enfin, les Saoudiens, c'est-à-dire Hayat Iftar, tout ça, machin, ils ne sont des fatwas complètement légitimes. C'est vrai, tiens la route, qu'ils nous disent. En parlant de Ben Laden et compagnie, et tout ce que vous voulez, qui sont contre l'Arabie Saoudite, le roi et le voyant, ces gens-là n'ont pas le droit d'attaquer, de faire des bombes, etc. Ce qui est vrai, le roi ou bien faire semer la terreur, les désordres, etc. Parce qu'on n'a pas le droit de sortir sous l'ordre des émirs, des responsables, des gouverneurs. On est bien d'accord. La bouddha n'est pas l'émir. Ok, d'accord. Mais le problème, c'est que déjà, ces royaumes-là, comment il a été bâti? Il a été bâti en sortant, en déclarant la guerre, à l'Empire ottoman. Financé, cadré, militairement, stratégiquement, économiquement par les Britanniques. C'est extraordinaire quand même. Haramun alayka halamun alayka. C'est-à-dire eux, ils sont sortis. Ils sont lisez l'histoire de Laurence d'Arabie, tout ce que vous voulez, hein, on nous présente aujourd'hui extraordinaire, quelqu'un de beau, yeux bleus, comme un cheval, mashallah, il est venu comme libérateur, ou il se trouve au milieu des tribus arabes contre les Turcs. C'est pas contre les Turcs, c'est contre l'Empire ottoman. Je suis désolé. Tu peux ne pas être d'accord avec les Ottomans sur diverses questions, mais est-ce que dès qu'on n'est pas d'accord, on prend les armes? Pas d'accord, tu écris, tu débats, etc., etc. Chacun expose ses idées. Même cet empire-là, il a des qualités, il a ses défauts comme tous les empires, comme tous les. Donc, on n'a pas le droit de quand on n'est pas d'accord, de prendre les armes. Donc, ils ont pris les armes, ils ont participé d'une façon très très forte à la chute de l'Empire ottoman. Par les Britanniques, et les Britanniques ne le cachent pas. Hein. Lisez le livre extraordinaire qui est sorti, le parc de Neige. C'est le Maison du Seuil qui a publié, je pense, si je ne me rappelle très bien, le Parcours, c'est un très bon livre. Vous allez voir tous les contrats qui ont été signés, etc., etc., par les Saoudiens, les Britanniques, ne cache pas. Après la chute de la Grande-Bretagne, elle n'a pas du tout le pouvoir qu'elle avait dans le 18e siècle, 19e siècle, début du 20e siècle. 20e siècle, 28e siècle, les Américains ont pris le relais, parce que les États-Unis, c'est un regroupement des nations qui vient de je ne sais pas d'où. Ils ont pris le relais des Britanniques quand la Grande-Bretagne a Morsi n'a pas ce pouvoir-là, les Américains ont surtout à l'aide du commerce du pétrole, alors là, c'est un total. D'ailleurs, ils sont dans l'argent. Pour dire que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de sortir de prendre là contre les mines, etc. Sauf si on voit bien qu'il y a, c'est-à-dire, il est dans une créance, cette mine-là, il est complètement dans une créance, et ensuite, il faut que c'est les savants qui décident quoi faire. C'est pas les petits. C'est-à-dire pseudo-muftis qui vont décider. Bon. Donc, même si c'est des musulmans qui ont pris des armes, etc., qu'il faut les combattre pour les rendre à la raison, etc., on peut faire cette prière. C'est ça le prof. C'est pas forcément contre, quand on fait une guerre contre les mécréants, etc. Alors, même si c'est des bandits. Hein, vous avez des groupes de bandits qui font la terreur, ils sont dehors de la ville, ils sèment la terreur, etc., etc. Et qu'ils sont devenus comme un grand groupe qui fait bon, il faut une petite armée pour les mains. On va faire une bataille contre ces gens-là. Alors, même si c'est des musulmans, c'est des bandits, hein, ils sont à l'extérieur, etc. Donc, on fait la prière de la terreur aussi, si c'est la nécessité, quand on sort, même si c'est pour déclarer, pas forcément deux armées, hein, vous avez des bandits, on va les arrêter, etc. C'est, si vous avez des policiers qui vont. Pour mettre de l'ordre, hein. Ils sont forcés de prier et de faire cette prière. Alors cette prière, elle a été priée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les sahaba à son époque, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pharachidines, etc., etc. Alors, si c'est cette armée-là musulmane, elle est en plein voyage, et que la prière qu'elle doit prier, c'est une prière de Dorkat, elle a pris Dorkat. D'accord. C'est-à-dire on a pris 4 à 4 Dorkat. Mais je vais vous expliquer comment on a pris. D'accord. Alors, la façon comment prier la prière de la peur, c'est que l'imam, qui va revenir au moment de prière, divise le groupe en deux parties. C'est-à-dire une partie, elle est sur le terrain, elle fait du jihad, elle s'occupe, elle est. On ne peut pas laisser le terrain, on va dire, d'accord. Il faut qu'il y ait des gens qui sont en combat et des autres qui vont venir pour prier. Alors l'imam, il commence la prière avec la moitié. Supposons ça, bon, 4 à 4. Il commence la prière, il fait 2 à 4 avec le premier groupe. Il fait 2 à 4. Dans la deuxième à 4, quand il fait le tachahout, l'imam se lève et reste debout. Il commence à réciter. Il reste debout, il attend, il reste debout, il attend que le deuxième groupe vienne. C'est le groupe qui a prié avec lui deux cartes, une fois qu'ils ont fait le tachahout, chacun ajoute les deux cartes, il reste tout seul. On est en train de faire une prière, l'imam il a fait deux cartes, on a fait les deux cartes avec l'imam, lui il se lève, nous on ne fait pas le salam, il nous reste deux cartes, chacun de nous continue tout seul rapidement. Et on fait le salam. Et on va au terrain, et ceux qui n'ont pas prié, ils viennent, quand ils arrivent, ils se mettent derrière l'imam, ils continuent la prière, pour l'imam, il est dans la troisième, mais pour ceux qui viennent, ils sont dans la première. Donc ils prient avec l'imam dans le 4, puisque l'imam nous reste dans le 4. Une fois que l'imam fait le salam, eux, ils se mettent debout, c'est comme s'ils sont arrivés en retard, ils ajoutent dans le 4, chacun tout seul. Est-ce que tout le monde a compris? Non. Alors, eux, quand ils sont avec l'imam, donc ils sont en train de. Avec l'imam, ils sont en train de. L'imam, il est en train de ramener que la fatiha. D'accord? Quand l'imam fait le salam, dans les autres cas, eux se mettent debout, ils ramènent ce qui leur manque, c'est-à-dire, en premier, c'est fatiha et surah. D'accord? Parce que c'est ce qui leur manque. Bon. Ça, c'est dans le 4 où, vous avez compris? Dans une prière d'automne, on a 4 à 4. D'accord? Ça, c'est une prière spéciale, au moment de guerre. Supposons qu'il y a 40 personnes, vous avez l'imam. L'imam, il commence à faire la prière avec 20 personnes derrière lui. Donc, il fait avec eux 2 à 4. Bien d'accord. Alors, c'est une prière de 4 à 4. Donc, pour bien l'assaut des nations. Pour le malade de Sof, je vais vous expliquer ça. Donc, lui, il fait les 2 à 4. Arrivé à la 2 à 4, tout le monde est assis, tout le monde fait tâcher route. L'imam se met debout pour ramener la 3e. Il reste debout. Eux, ils ne continuent pas avec l'imam. Chacun d'eux continue tout seul, il ramène les deux cas qui lui restent. rapidement, hop, salam alaykoum, chacun, tout seul, hop, il va au combat. Ceux qui n'ont pas compris, ils viennent, l'imam, il est debout, il est dans la troisième, ils se mettent derrière lui, pour lui, c'est sa troisième, et pour eux qui viennent, c'est leur première. Donc, c'est, pour eux, c'est leur première. Donc, ils continuent, ils font les deux cartes avec l'imam, l'imam, il ramène sa troisième à lui, et sa quatrième, il fait le salam, une fois qu'il a fait le salam, eux, ils se mettent debout, ils ajoutent deux cartes qui leur manquent, chacun tout seul, ils font le salam. Alors, eux, ils ont ramené avec l'imam que la troisième et la quatrième, c'est-à-dire avec Fatiha seulement. Ils sont d'accord. Alors, quand l'imam fait le salat, eux, ils se mettent debout et chacun d'eux ramène une raka'a avec Fatiha et Sourate. Voilà. Alors, ça, c'est dans le cadre où c'est quatre raka'as. Et bien d'accord. Dans le cas où c'est une prière de maghrib. Dans la prière de maghrib, il y a combien de raka'as? Trois. Alors, le premier groupe ramène avec l'imam deux rak'at. D'accord. Le premier groupe ramène avec l'imam deux rak'at. Une fois que l'imam se met debout pour la troisième, eux, qu'est-ce qu'ils font? Chacun ramène tout seul un rak'at qui lui manque. Il part. Alors, ceux qui viennent, l'imam, rappelez-vous, il est debout pour la troisième de maghrib. Ceux qui arrivent sont arrivés. Elle est considérée comme quel rak'at pour eux? C'est leur première. C'est la dernière, c'est la troisième pour l'imam, mais pour eux, c'est une première. Et bien d'accord, l'imam, il va la ramener juste avec Fatiha, et il se taise, il va la ramener avec lui. Il s'assoit, l'imam fait le tachahout, il fait son salam, puisqu'il a terminé sa troisième. Eux, ils se mettent debout, et bien d'accord, ils se mettent debout, ils ramènent chacun d'eux, tout seul, une avec Fatiha et Sourate, ils s'assoient, ils ramènent le tachahout, parce que chacun d'eux, c'est sa deuxième. D'accord? Ils se lèvent, et chacun d'eux ramène Fatiha et Sourate à haute voix, et ils font le tachahout et le salam. Et bien d'accord. C'est comme s'ils sont arrivés en train. Bon, pour Salat Sof, qui est que deux rak'ats, la même logique juste avec deux rak'ats. C'est-à-dire, Salat Sof ou bien une prière de voyageur. On sait que la prière du voyageur, c'est une prière de quatre rak'ats, comme vous le savez, on a parlé de ça, qui se rétrécit en deux rak'ats. Bien d'accord, avec toutes les conditions de prière du voyageur, etc. Alors, l'imam fait la première rak'at, d'accord? L'imam fait la première rak'at, donc quoi? Salat Sof, par exemple. Après la deuxième sijda, deuxième sujoud, une fois qu'on a fait avec l'imam deuxième sujoud, l'imam se lève et se met debout pour accomplir la deuxième. Il reste debout, il attend le deuxième groupe qui vient. Eux, dès que l'imam se met debout, eux, ils continuent chacun d'eux tout seul. La deuxième qui lui reste. T'as bien compris? Ils font le salam, ils vont, le deuxième groupe, ils arrivent, ils sont avec l'imam debout, ils ramènent avec lui une raka'a, une fois que l'imam fait le salam, ils se mettent debout pour ajouter une raka'a qui leur manque. Tout le monde a compris? Salut à la suite. Quand? Ok? Donc, s'il y a. Ah non. L'imam, on a un imam qui est responsable de deux groupes. Il n'y a pas un troisième groupe qui va. Alors. Si un troisième groupe, donc ils vont le diviser en deux. D'accord? Ça va être troisième, quatrième. Ils vont prier tout seul. D'accord? Avec un imam. Donc pour chaque prière, il faut un imam et deux groupes. Ça y est, on a terminé cette prière, on passe rapidement, ça va être l'Aïd. On est en pleine guerre et on a peur qu'on soit attaqué. D'accord, c'est dans ce sens. Salat al-Aïdain. Alors, Salat al-Aïd, sunna mu'akkada. Donc, c'est une sunna mu'akkada, on va dire, très recommandée. Très recommandée par rapport à qui? Par rapport à celui dont la prière du vendredi est obligatoire. Rappelez-vous, quand on a parlé de la prière du vendredi, elle est obligatoire par rapport à qui? Hein, par rapport à celui qui n'est pas voyageur, qui n'est pas malade, qui un acte du verbe est masculin, par le féminin, enfin, toutes ces conditions. Il est libre par un esclave. Alors, donc, pour celui qui fait le hajj, non. Alors le hajj, non, le hajj il est en plein, celui qui est dans le hajj il est en plein. Et il est à la fin, le lendemain il va faire son rejet, donc il ne fait pas ça, le hajj. Ou bien les gens qui habitent Milan. Milan c'est une grande, on va dire, vallée, très 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 grande, vous avez pendant les jours de Yam le hajj, c'est-à-dire que tous les hajjabs sont à Milan. Plein hein, de tentes, vous avez des milliers de tentes, etc. Mais vous avez des gens qui habitent Milan. Il habite Milan. Alors, même celui qui habite Milan, il prépare l'aide. Bien qu'il n'ait pas Hajj. Pourquoi? Parce que s'il va prier l'aide, il se peut que quelques Hajjaj vont venir prier l'aide avec lui. Donc, il n'y a pas Milan ou bien Hajj, c'est pas celui-là. D'accord. Alors, la prière de l'Aïd, ça se prie de sa prière. On a pris dès que le soleil se lève, c'est comme une fois que le soleil, ça devient chelouk, le soleil, ça s'est bien levé. Ouais, c'est la période de Sarat Boha. D'accord. Le soleil commence à devenir un peu jaune, ça devient, il s'est bien, il n'est plus jaune, ça c'est bien levé. Hein, c'est le moment où on peut faire prier les prières sur le toit. Jusqu'à Zohar. Juste avant de dormir. Si le moment de dormir est rentré, on ne fait pas ça. On est repris jusqu'au zénith. Hein. C'est-à-dire avant le zénith. C'est-à-dire si le moment du zénith est arrivé, et on a dépassé. C'est-à-dire si le moment de ça est rentré, on ne fait pas ça. Vous avez compris? Alors, on l'a pris en deux craintes, ça va être l'aide, à haute voix, dans la première raka'a, on a t'kbert l'ikhram, c'est Allahu Akbar, d'accord. On lève la main une fois, hein, on ne peut pas passer son temps, on dit les gens, ça va être l'aide, Allah, prochaine fois, il va répondre, Allah, Akbar. Bien, il est en plein recours. Quand il se lève, sa mère l'a rien d'envoi. Ou bien les autres, en plein soujoud, il fait comme ça. Hein. Elle disait non. Quand on commence, quand tu te crains, tu peux faire ça, mais tu es recommandé devant les oreilles, comme ça. Allah. Elle fait comme ça. Ça, il y a pas. Devant les oreilles. D'accord. Devant les oreilles. Allah. Une fois, face au samedi. Alors, première raka'at, avec la première tekbira, on fait 7 fois tekbira. On commence. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 fois, avec la première. La première, elle est obligatoire. Parce qu'on rentre, comme vous le savez, c'est le haram. Mais les autres, c'est les sunnah. Non, 7. Avec la première, 7. D'accord. Dans l'école malikite, non. D'accord, c'est déconseillé dans l'école malikite. On ne fait qu'une fois. D'accord. Chez les autres écoles, on fait quand on se lève. D'accord. Une fois qu'on se lève, ça me rend rien. Je pense que c'est chez les Hanbali, je pense que c'est chez les. Quand on se lève, d'accord. Khalas. Il n'y a pas, ensuite, quand on va, même chez les autres écoles, il n'y a pas, on va descendre, ou bien assis, Imam Bukhari, ou Mar Aïdou. J'ai trouvé aucun délit pour celui qui lève les mains assis, ça n'existe pas. Imam Bukhari, je vous le dis. Vous avez vu, là, pour le contraire, assis, comme ça, voilà. T'as bien. Et donc, pour la première raka'a, pour la deuxième raka'a, rappelez-vous, la première raka'at, il a accompli. Il est debout, il a ramené 7 fois. seul. Bon, là, on va lui dire qu'est-ce qu'il lui recommande de réciter.
Avec le Haram 5. Non. Non. Non.
6 plus 1. 6 plus 4. La deuxième, 5 plus 3 de volume. Le total de la première, 7. Le total de la deuxième, 6. Non. Alors, chaque takbir, il est considéré comme une sunna recommandée. C'est-à-dire que si quelqu'un a oublié, il a prié tout seul, hein, tu sais qu'on peut prier tout seul hein, chez soi, ou on peut prier tout seul sans l'aide. Hein. Pas forcément, tu ne sais pas, c'est-à-dire tu peux la prier tout seul. Bien sûr, et recommandé, très très recommandé, fortement recommandé de prier en groupe, etc. Mais il y a des circonstances, je n'ai pas pu, ou bien les femmes chez elles, etc. Elle prie toute seule. Non. Si une personne a oublié une tribéra, et qu'il a oublié une tribéra, c'est-à-dire il a fait 3, 4 ou 5 tribéra, il lui manque une, deux, trois, si vous voulez. Il a commencé à lire un Fatiha et le Surah. Donc il reprend les tribus qui lui manquent, il ramène les tribus qui lui manquent, et il reprend la lecture après le tribu. Re-ramène le Fatiha et le Surah. Et après le Salam, il fait deux soujouts, parce qu'il a rajouté. Tout le monde a compris? Là, tout le monde a compris. Allez, Khoa, en même temps. Oui, tout à fait. Si on a oublié, on la coupe, absolument. Par contre, si on est avec l'imam, j'arrive en retard, arrive, hop, ils ont commencé la prière, je suis avec l'imam. Je suis arrivé avec l'imam dans la troisième tribéra, quatrième tribéra. Je fais avec l'imam les tribères, parce que je l'ai compté. C'est vrai ou non? Je l'ai compté, un, deux, il a fait, hop, ils ont fait trois. En fait, avec ma tribéra, ils ont fait 3. En vérité, il faut 7. Donc il me manque quoi? Il manque combien? Il me manque 4. Une fois que l'imam termine, lui, il va commencer à ramener la Fatiha et la Surah. Même lui, moi je la ramène tout seul. Allah, 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 Allah. 4 tribéra. Si je ne les ramène pas, et que je suis derrière l'imam, ce n'est pas grave, puisque je suis avec l'imam. D'accord? Mais il est recommandé de les ramener. Par contre, si je ne les ramène pas, je suis derrière l'imam, c'est pas grave parce que je suis derrière l'imam. Il faut mes chambres. Ah, là, il faut un sujet comme lui. Ah, là, c'est même moi que. Il faut mes chambres. Ça veut dire qu'il peut revenir, il peut revenir et les ramener tant qu'il n'a pas fait le recours. D'accord? C'est comme si je prie tout seul. Tant que je n'ai pas fait le recours, je peux toujours. Revenir. Mais si j'ai fait le record, je suis dans l'obligation. Le record, c'est une obligation. Je ne reviens pas vers la sunna. Ou à cadre, au fond. Si je n'ai pas encore fait le record, je suis imam, je me suis rappelé qu'il me manque une ou deux tribales. Je ramène la tribale, je ramène la lecture après. Et à la fin, il me faut un sujet d'indic, parce que j'ai ajouté. Allah est créé. Alors. Les actes méritoires de Salat al-Eid. Quels sont les actes méritoires de Salat al-Eid? Mandoubat. Non. Premièrement, Ihya Laylat al-Eid. C'est-à-dire, la veille, demain c'est l'Eid, la veille, c'est passer sa nuit à prier, à faire le dhikr, Salat al-Nabi. Les gens, la veille de l'Aïd, ils sont prêts en panique. Les femmes, c'est le halwa, les hommes, c'est le café, machin, etc. Bon, c'est bien de faire le halwa, mais il est préférable de la faire la journée, etc. Mais la nuit, c'est très important de passer en faisant dhikr, parce que c'est une layla où le hajj est très multiplié, c'est elle est très importante. La forme, c'est-à-dire la veille de l'Aïd, on fait dhikr, on fait sans la main, on prend encore le Coran, etc. On fait la ziyara aux gens pieux, etc. Ensuite, on a parmi les actes méritoires, son acte méritoire, c'est sunna. Attendez, acte méritoire, c'est sunna. Pourquoi ça va sunna? C'est al-ghusl.
Ghusl, c'est-à-dire le.
Faire les grandes ablutions. D'accord. Le temps, c'est à partir de le dernier sixième de la nuit. C'est-à-dire, si on divise la nuit, on peut la calculer de Salat, de Maghreb. On peut la calculer de Salat de Maghreb. Il y a un avis qui dit Salat de Maghreb, mais pour vous faciliter, pour ne pas vous embrouiller, il y a d'autres avis qui disent de Salat de l'Isha. On peut la calculer de Salat de l'Isha jusqu'à Fajr. D'accord. Salat de l'Isha jusqu'à Fajr. D'accord. Ça, c'est l'Isha. On va dire que le Salat al-Isha est actuellement à 20h30. Sobh, on est comme ça. Ça ne marche pas trop, ça va nous donner combien de
points?
1,5. 1,5.
On a divisé par 6.
Ouais. 1,5. Alors, 5, c'est 1,5, c'est-à-dire 1h30. C'est-à-dire 1h30 avant Sobh. Donc 1h30 avant Sobh, c'est-à-dire 4h. Actuellement, à partir de 4h du matin, jusqu'à Salakiri, d'accord, de 4h du matin jusqu'à au moment de Salakiri, toute cette période-là, c'est méritoire de faire le rosque dans toute cette période-là. D'accord. C'est méritoire. C'est-à-dire à partir du sixième temps de la nuit jusqu'à la prière d'Aïd. C'est un méritoire.
C'est le même principe pour le Jumu'a?
Non. Pour le Jumu'a, on a dit c'est-à-dire on a dit pour la prière du vendredi, dès qu'on fait le rosque, on va à la prière. Sauf si c'est un moment d'aller manger du pain, quelque chose de léger. Hein. C'est pas pour aller travailler, c'est pour rien, non. C'est un Jumu'a. Rosque directement du Jumu'a. Alors, c'est un acte méritoire de se parfumer, bien sûr, pour les hommes. Les femmes, elles peuvent se parfumer chez elles, bien entre femmes. Pour les hommes, bien se parfumer et mettre les meilleurs habits qu'on a. Pardon ? Non, 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 non. Oui, le jour de l'aide. Oui, les femmes aussi. Les beaux, les enfants, tout le monde. Parce qu'ils ont baillé. Hein. Même celui qui ne fait pas la prière. D'accord. Même celui qui ne fait pas la prière, il est recommandé de bien s'habiller, etc., etc. Donc c'est un acte méritoire pour celui qui peut d'aller à pied. On va à pied. D'accord. Et d'aller par un chemin et revenir par un autre chemin. D'accord. D'aller à pied. Pardon ? Pour que le chemin témoigne le jugement dernier de ce qu'on a fait sur cet endroit-là. D'accord ? Sunna, il y a Sunna. Comme la prière, c'est-à-dire quand on prie, ça va être par exemple, quand on vient à Borg, à Neija, quand on veut faire une prière sur le on change d'endroit. Il est déconseillé de rester dans un endroit où l'endroit il témoigne le jour dernier que. Donc c'est un acte méritoire pour Salat Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, c'est comment on appelle ça en français? Comment? Eid al-Fitr. Eid de. Je ne sais pas comment on appelle. L'autre, on appelle elle. Hein? La voix, c'est une fête du bouton, c'est clair. Mais répétement, on va rester à répéter. C'est-à-dire que c'est l'aide qui vient après Ramadan directement. D'accord? Une fois que Ramadan est terminé, c'est le jour qui vient après. Alors, pendant tout le mois de Ramadan, on jeûne. C'est vrai ou non? Matin, on jeûne. Alors, le jour de l'aide, vous savez que c'est interdit de jeûner le jour de l'aide. C'est interdit. Donc, avant d'aller prier, c'est un méritoire de manger quelque chose. D'accord? C'est-à-dire qu'on casse le rythme qu'on avait pendant le mois de Ramadan de ne rien manger pas. Comme Charles. Ça c'est pour l'aide. Le fait, contrairement à l'aide al-Adha, la fête du mouton, on ne mange rien le matin, on va prier, mais en revenant, la première des choses qu'on mange, c'est une partie de ce qu'on a sacrifié. Alors, c'est un acte méritoire de la prier en dehors des mosquées. Dans un terrain, d'accord, c'est en dehors de la mosquée, c'est un acte méritoire, c'est pas une obligation. Sauf pour la Mecque, via midi, etc. C'est discours, la prière dans la mosquée, elle est multipliée des milliers de fois. Fonctionne. Septièmement, c'est un acte méritoire de réciter dans la première rak'a la sourate de Sabbih Isma Rabbika al-A'la. Donc c'est un acte méritoire de réciter dans la première rak'a Sabbih Isma Rabbika al-A'la. Ou bien Hal Ataka Hadith al-Ghashiya. Sourate al-Ghashiya. Donc sourate Sabbih, ou bien sourate al-Ghashiya. Dans la première rak'a. Sauf Allah. Donc, dans la deuxième rak'a, il est recommandé, il est méritoire, de réciter Surat Al-Shamsi wa Duhaha. Surat Al-Shamsi. Al-Shamsi wa Duhaha. Dans la première rak'a. Dans la deuxième, excusez-moi. Et dans ou bien Shamsi wa Duhaha, ou bien Wallayl ila Yakhsha. Shamsi wa Duhaha, ou bien Wallayl ila Yakhsha. Wannahar ila Tajalla, wa ma khalaqa al-bakara wa al-insa. Wallayl ila Yakhsha. C'est un acte méritoire d'avoir deux khutbah, deux prêches. L'imam fait deux prêches. Sauf que, cette fois-ci, contrairement à la prière du vendredi, les deux prêches sont les faits après la prière. Dans la prière du vendredi, c'est avant la prière. Dans l'aïd, on prie, ensuite, il y aura le prêche. Si l'imam oublie, et ceux qui sont avec lui, et qu'ils ont fait la khutba, ensuite ils ont prié, il leur est recommandé de refaire la khutba. Après la prière. Il s'est trompé l'imam, il a fait sa khutba, ensuite il a prié, il a fait comme le vendredi. Une fois qu'il a terminé la prière, il s'est rendu compte que c'est pas ça du moins, c'est l'aide. Et dans sa l'aide, on fait la prière, ensuite la khutba. Une fois qu'il a terminé sa prière, il recommence la khutba. Donc c'est recommandé.
Tellement il y en a beaucoup qui font la prière et ils partent.
Oui, c'est leur prière, elle est valable. Mmh. Mais ils ont laissé beaucoup de méritoire, beaucoup de hasanat. D'accord. Alors, celui qui fait l'akhtaba, il est très recommandé de faire beaucoup de takbir pendant l'akhtaba. Commence par le takbir. D'accord. Pendant l'akhtaba, à la fin de l'akhtaba. Alors, le takbir, quand tu me fais haram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, harakatayn, Allah. L'imam des imams, il va commencer la prière, comme je vous ai dit une fois. Si tu rentres dans une prière avant l'imam, ta prière n'est pas valable. Tu ne rentres pas dans la prière. Ou bien, tu sors de la prière avant l'imam. L'imam des imams, quand il va commencer la prière, moi, au Hajj, on a vu ça, il va faire comme ça. Allah. Tous ceux qui sont derrière lui, ils sont déjà rentrés dans la prière. Oui, le dernier a rentré, il n'est pas encore rentré. Ils ont touché Allah au bol, ils sont en train d'attendre Allah. Donc, il faut que l'imam le fasse rapidement et convenablement. Allah, quoi. Tu ne donnes pas aux autres de rentrer avant toi. Elle dit même, il fait comme ça. Allahu Akbar. Tous ceux qui sont derrière, ils sont rentrés avant lui. Leur, sa prière à lui, elle est valable. Mais ceux qui sont rentrés avant lui, sont rentrés avant l'imam. Leur prière, elle n'est pas valable. T'as compris? Ou bien, à la fin. Les autres, ils sont sortis. Hein. Ils sont sortis avant lui. Leur prière, elle n'est pas valable. Assalamu alaikum. Indana fil malik, madame de maliki. L'imam fait un seul salam. Comme a fait le masna de l'imam Ahmad. Assalamu alaikum. Tu fais une deuxième, tu n'assistes pas à la sunna. Dans les autres écoles, et dans l'école maliké. Assalamu alaikum. Quand tu es derrière l'imam, si tu es derrière l'imam, l'imam il a fait assalamu alaikum. Supposons qu'il y a une personne par là, donc je fais assalamu alaikum. Ensuite, je me retourne vers l'imam, dans mon cœur, je dis alaikum salam à l'imam. Et je dis par là assalamu alaikum. S'il y a une personne par là, s'il y a personne, je dis rien. Si je prie seul, je fais un seul salam, assalamu alaikum. D'accord, hadith mon Dieu fait mon salam l'imam. Oui, toutes les prières. Non. Alors, pour faire attention, pour un imam, ou bien celui qui prie un côté derrière lui, assalamu alaikum. Il ne leur donne pas le temps de. Vous avez des gens, ils sont. Même si c'est imam, pas imam, il est des ignorants. Ce n'est pas parce qu'il a une grande part, mais ce qu'il est. Ben, c'est pas. Faut qu'il y a des choses que l'imam doit connaître. Subhanallah. C'est important. Il est responsable des gens, des pauvres gens qui sont derrière lui, à cause de lui, leur prière n'est pas valable. Parce qu'il a fait le tibir trop long, et un salam trop long. Donc, il faut faire attention. Alors, il est méritoire de faire pendant 3 jours. Non. Non. Ouais. Oui, même les fidèles, ils répètent, mais la voix basse. L'imam, il répète à voix haute, nous. Il ne faut pas qu'on dise avec lui Allah ou autre. Non. Lui, il dit, et nous, on dit à voix basse. Vous avez appris une chose, par contre, que pendant l'aïd, pour ceux qui disent. Aussi bid'a, vous savez, se réunir pour faire le dhikr, parce que maintenant il y a une super mode, tout est bid'a. Donc, faites attention, dès que tu bouges, hop, bid'a. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des hadiths, hein, même à l'époque des sahaba, des hadiths là, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Aïd, faisaient le tour de Médine, des centaines de sahaba font le dhikr. En groupe jusqu'à ce que les murs de Médine bougent. Tellement ils crient Allah encore, il faut le dire. En groupe, hein, tout au long de avant d'arriver déjà dans la mosquée. Alors, donc il est un méritoire pour la prière du mouton, on va dire. Elle est pas fin. Donc pendant 3 jours, ça fait 15 prières si vous voulez. Commençons par Salat Dohr du premier jour. Après chaque prière, on dit 3 fois Allahu Akbar. L'imam dit, on répète après lui, ou bien on dit tout seul. Après chaque prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bon, on peut ajouter, après la dernière, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi Alhamd. On peut ajouter ça. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi Alhamd. Donc, si on commence, c'est-à-dire, si on commence le premier jour, c'est-à-dire ces 15 prières, le premier jour de l'Aïd, avec Salat Dohan, on a commencé par dire, après la prière, 3 fois après chaque prière, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wa ilaha alhamd. Quand est-ce qu'on a terminé? Quatrième jour, dorme.
Fonction.
C'est-à-dire le quatrième jour, dorme, on ne la ramène pas. Hein. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire on ramène celle de sur, celle de dorme, on s'arrête, hein, donc, c'est-à-dire on ramène celle de dorme. 15. Alors, Salat al-Aïd, il est déconseillé de faire Nafila dès que tu vas. En général, les gens ils prient dans les terrains, ce que vous voulez, en dehors de la mosquée. Même dans la mosquée. Tu arrives, aujourd'hui c'est Salat al-Aïd, j'arrive directement, je m'assois. D'accord ? Et t'as rien, je rien, hop, je m'assois. Une fois que j'ai terminé Salat al-Aïd, j'ai pas de prière qui sera obligatoire avant Salat al-Aïd ni après Salat al-Aïd. D'accord ? Il est déconseillé de prier avant sa grève, après sa grève. Déconseillé. Alors, on va attaquer rapidement. Ça y est, ça va être terminé. Hop, on passe. Parce qu'on appelle, je voulais 4 ou 7 prières de semaine et terminer tout aujourd'hui. Je vais vous fatiguer un petit peu rapidement par 2 prières. Les prières de l'éclipse. D'accord. Salat el Kousou ou Salat el Khoufou. Alors, en français, on dit l'éclipse. Hein. C'est-à-dire, que ce soit pour le soleil, pour la lune, on dit l'éclipse. Tac. Chez les Fouqaha, on fait une distinction entre l'éclipse du soleil et l'éclipse de la lune. Donc, il y a le Khoufou et il y a le Kousou. Je vais prendre une distinction. Le mot, c'est des savants musulmans, c'est très 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 avancé pour l'astronomie. Hein. Vraiment, d'ailleurs, plusieurs découvertes en astronomie, dont les découvertes musulmans qui ont fait, les noms d'étoiles, etc., de Mazarat, ils ont été complètement, comme d'habitude, hein, si en Occident, c'est des spécialistes de la falsification et la confiscation, on va dire, des découvertes scientifiques. Hein. Même les noms. L'autre s'appelle Ibn Rushd, on va le à Pavel West. Il faut le rendre à Ajdou, pour le modeler. Il faut respecter. Tu t'appelles Ali, tu vas en Chine, tu restes Ali. Hein. C'est, on va pas te t'appeler Chaolin ou la. Chaolin. Ali, ça veut dire. Un Chinois qui vient ici, je sais pas moi, il s'appelle Chichois. Tu l'appelles Chichois, tu vas pas le transformer en. Tu vas pas le franciser ou l'arabiser. Il s'appelle comme ça, c'est comme ça. Bon, alors vous avez en astronomie plusieurs théories qui ont été, on va dire, accaparées carrément. Le logarithme, que les mathématiciens, ici, ceux qui ont fait les mathématiques, c'est Khwarizmi. Hein. C'est l'imam Khwarizmi, c'est un grand savant, très doué en mathématiques. Donc, toute la base de l'informatique aujourd'hui, tout ce qui est 0,1, etc., machin, toutes ces règles algorithmiques, les modèles économétriques, etc., etc. L'idée du Imam Khwarizmi, elle est géniale pour son époque, c'était extraordinaire. Comme c'était un mathématicien très fin, doué, etc., un grand frère au Souli, il a voulu trouver, on va dire, une fonction mathématique à partir de laquelle, avec des variables, on va vous fatiguer un peu, ceux qui détestent les mathématiques là. Avec plusieurs variables, parce que lui, le problème c'était quoi? C'était pour la question de l'héritage. La question de l'héritage, c'est un peu compliqué. L'autre il prend la moitié, l'autre il prend un dixième, si lui il existe, il va hop, priver les autres. Donc c'est compliqué. Alors il a voulu trouver, un algorithme, de telle sorte, avec des paramètres, il suffit de faire rentrer les informations que tu as le résultat. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Ça, vous avez une fonction avec plusieurs variables, etc., etc. Donc, il a trouvé cette fonction, vous imaginez. C'est-à-dire que tu c'est extraordinaire, il faut le faire. Parce que le miracle est compliqué. C'est à partir de là que c'est venu l'idée de l'algorithme. Ça s'appelle comme ça. Donc, vous avez plusieurs théories. Sans parler des théories confisquées ou des musulmans qui les ont découvertes, hop, on ne la parle plus. Vous avez une théorie en économie où il y a Imam Makhalizi, qui est un faqih, spécialiste historien, etc., qui a étudié les causes de crise économique de son époque. Il y avait beaucoup de crises économiques, problèmes d'inflation, etc. Donc il a étudié le problème au niveau inflationniste, rapport de la monnaie et des prix, etc., et des marchandises, et leur variable avec l'or et l'argent et les autres métaux. Il a constaté que ce qu'il a appelé lui la mauvaise monnaie, dinar, ou ce que vous voulez, dirham, chasse la bonne monnaie qui est le dollar, le benchmark, etc., l'euro, du terrain. Les gens, la bonne monnaie, il va essayer de la garder, il l'utilise. Or, le rôle de la monnaie, c'est la transaction, c'est l'utilisation. Donc, on voit que les gens, ils ont retiré, indirectement, ils ont retiré du marché la bonne monnaie, mais la fonction, elle est venue. Donc, la mauvaise monnaie, elle a chassé la bonne monnaie. Mais quand vous allez ouvrir les manières, maintenant, ceux qui étudient un peu l'économie, etc., vous allez trouver que celui qui a découvert cette théorie, c'est Grisham, 6 siècles après Bocalisé. La mauvaise monnaie chasse la bonne, etc., c'est une guérison pour la bonne. 6 siècles, Bocalisé l'a dit avant. Ou bien vous avez des théories en sociologie, entre Bloch-Ragnon et Durkheim, ce que vous voulez. On a un grand problème dans l'honnêteté scientifique, on va dire, historique. Il y a un Turc qui a écrit un ouvrage extraordinaire pour parler de la confiscation des théories en Occident, où c'est des musulmans qui les ont découvert, que ce soit en mécanique, en médecine, en sociologie, etc., etc. Et qu'on a donné d'autres noms à la gens historiquement. Même ceux, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui font un peu l'histoire de la pensée économique, vous allez dans l'histoire de la pensée économique, on commence par l'époque grecque, hein. Aristo, la pensée chez les Grecs, etc. Qu'est-ce qu'il a dit à Platon, etc. Hop, ensuite, Adam Smith. 15e, 16e siècle. Ça dépend de 8 siècles. Il n'y a rien à voir, c'est plus. Dans les 8 siècles, l'histoire, il n'y avait rien. Rien ne s'est passé. C'était primitif. Or, il y a quand même, pendant 8 siècles, on se montrer ce qui s'est passé. Désolé, il y a quelque chose. Et la monnaie musulmane, elle est chez les Vikings. Vous allez en Finlande, dans le Nord, dans les musées, vous allez trouver la monnaie musulmane. C'est-à-dire que c'était la monnaie qui circulait, même chez les Vikings, monnaie musulmane. Donc il faut être quand même honnête quand on parle, il faut parler de ce que les musulmans, leur monnaie a existé, ils ont imposé, quand même, ils ont participé à l'histoire de la civilisation. La civilisation, c'est une production humaine de tout le monde, personne n'a le droit de l'accaparer, de dire non, les mathématiques, ça appartient ni à un musulman, ni ça appartient à l'humanité. Ça, c'est une histoire, il faut dire ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on n'a pas ça. Comme dit Bloch-Ragnon, départ, c'est notre faute. Hein. Celui qui détient l'information, c'est lui qui déclare sa vérité, comment elle est. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à nous de montrer, il ne faut pas qu'on attende de l'autre, c'est à nous de montrer. Vous avez des gens honnêtes, hein. Il y a une Allemande, je ne sais pas si je vous ai parlé, elle s'appelle Sigrid. Elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. D'accord? Shamsul Aram est Astar al-Ghab, ça fait Zigrid. Elle a parlé de la civilisation musulmane au moment où l'Occident était en plein. C'est-à-dire au Moyen-Âge. Vous savez, le Moyen-Âge, c'est pas pourri pour nous. Le Moyen-Âge, chez nous, c'est l'âge d'or. Donc, sans faire rire, une fois, le président arabe, il a dit on va pas retourner au Moyen-Âge. J'ai dit ah bah écoute, c'était ma tempête, mon gars, parce que là. Le Moyen-Âge chez nous, c'est l'âge d'or où je peux. Il ne sait pas où il est. Il ne va pas retourner au Moyen-Âge. Ben oui, c'est tué. En Occident, c'est vrai, le Moyen-Âge, c'était quelque chose de terrible. Quoi. On vendait aux gens, c'est-à-dire les archevêques, les prêtres, c'était passé leur temps à vendre des tickets. Tu veux un terrain au paradis? Tu vends. C'est-à-dire, on vend les. Mais chez les musulmans, c'était l'âge d'or. Et la décadence des musulmans, elle était quand il y avait. C'est-à-dire la lumière, comme on dit ici, etc. Là, c'est vrai, les pratiquants musulmans, sans avoir un souvenir. Alors, tout ça pour revenir Salat al-Kusuf ou al-Khusuf. Alors, Kusuf, en arabe, ça parle d'une éclipse du soleil. Kusuf. Kusuf. Kusuf ou Shamsi. Des Arabes, ils ont rien. Moi, alors, quand t'as. Ça t'arrive, ouais. خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا وهو مضاف وهذا مضاف اليه. سبيان اعلم سبيان النحو زين للفتى يكرمه حيث اتى ومن كان يجهله فحقه ان يسود. Contrairement, je suis très content d'avoir les Arabes à la profonde famille, ça fait plaisir. Non. De toutes les façons, moi quand j'enseigne les Arabes, je vous invite à apprendre l'arabe. Vous n'êtes pas loin des Arabes. Wallah, il faut apprendre, j'ai le frère Abdislam, que tu connais pas. Une année, tu te mets, Inch'Allah, une année et demie, tu es même au meilleur niveau. Le problème, c'est un problème, c'est pas. C'est vrai. C'est, la langue arabe, Allah, elle est facile. C'est une belle langue, il faut l'aimer. Elle est facile. Il suffit de s'y mettre. Apprendre, mais il faut savoir avec qui on apprend. Si tu prends avec quelqu'un qui fait dégoûter sa conscience, il faut aller doucement. Prendre des petits carnets, comment faire avec toutes les langues, écrire tel mot, c'est-à-dire sa traduction, pour avoir un riche vocabulaire, et ensuite comment les lettres, quand elles sont isolées, quand elles sont attachées comme inscrites, frappent. Et ensuite, vous allez apprendre que ce n'est pas compliqué. Les mots en arabe, il y a trois sortes de mots. Et si moi, je dois faire un nom, un verbe, un articulateur. Le nom en arabe, c'est le nom de toute chose. Idée, objet, toutes les choses. Le verbe, c'est l'action. L'articulateur, c'est qui relaie entre le mot et le verbe, l'idée à la fin du mot ou à la fin du verbe. Bien avant. Bon, voilà, c'est facile. C'est une très très belle langue. Très très belle. Très riche. Très 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 riche. Très subtile. Très métaphorique. Il faut vraiment s'y mettre. Et même. Kusuf al-Shams, quand le soleil, c'est-à-dire il est couvert, c'est-à-dire c'est en plein jour, hop, le soleil commence à se faire, on ne le voit plus. Au fond, on va parler pourquoi il y a cette prière. C'est une prière un peu spéciale, là. Un peu spécifique. Alors, c'est une prière très recommandée. Salaf Kusuf, c'est une prière très recommandée. Non, on y arrive, hein. On commence par le couscous.
Elles sont pas pareilles,
non, elles sont pas pareilles. Elles sont pas pareilles. Quand vous dites c'est la alors. Alors, celui dont elle est destinée. C'est toute personne qui fait la prière. Homme, femme, petit, grand, tout le monde. Tout le monde. D'accord. Donc les voyageurs, pas voyageurs, petits, pas petits, etc. Tout le monde. Même le malade, etc. Tout le monde prie. Tous ceux qui prient. La femme, celui qui va prier chez lui, une femme prie chez elle, tout le monde prie. On groupe à la mosquée, chez soi, tous. Alors, le soleil, je peux être d'accord avec moi qu'il n'y a pas de soleil la nuit. Hein. Là, on est d'accord. On ne l'a pris pas la nuit. C'est-à-dire qu'on l'a pris du lever du soleil quand il se lève bien jusqu'au zénith. Comme ça, l'athlète.
D'accord.
Oui. Mais je veux dire, son temps. C'est-à-dire. Bien sûr, on va la prier au moment où il y a l'éclipse. On va la prier au moment de l'éclipse. Mais c'est entre le lever du soleil jusqu'à avant sa
retraite.
Donc
il y a lieu dans cette période.
Voilà, tout à fait. Donc il y a l'éclipse pendant cette période-là. Non. Bien sûr, on l'a pris au moment de l'éclipse. Non. Là. Là. Sallallahu alayhi wa sallam. Non.
Non. La vie de Imam Malik, dans la Moudawana, il dit on l'a pris par un prébord. Moudawana, c'est un livre que, des élèves, c'est un livre écrit par des questions posées à Imam Malik par ses élèves. Quand le soleil se lève bien, jusqu'à avant-bord, pendant toute sa lève. Au moment où il y a l'éclipse, on commence à la prier. Je vais vous expliquer la façon de prier. Comment? Voilà, exact. C'est-à-dire, dès que le soleil, même s'il y a une toute petite partie qui a commencé à couvrir, on commence à la prier. Non. Oui, si l'éclipse n'a pas encore commencé, on attend jusqu'à la
porte. Ça veut dire qu'il a commencé, mais on a un peu plus la tarte. On peut la faire jusqu'à la porte ou bien obligatoirement la faire juste pendant la nuit.
Je ne sais pas l'endroit. C'est-à-dire qu'elle a commencé, supposons, à midi et demi. Et si on l'a fait, on va rentrer dans le temps de temps, c'est ça?
Non, par exemple.
C'est quoi la question?
À 10h ou 11h?
Oui. Non, on l'a fait pendant.
Ouais.
Non, faut que ça le fasse pendant. Alors, la façon de la prier, donc c'est deux rakats. C'est deux rakats. Lakin. On l'a pris à voix basse, la vie majoritaire. Hein, on a des amis qui disent pas la prière à voix haute, on va la prier à voix basse. Alors, ces deux rakats, n'écrivez pas, suivez-moi pour que ce soit. Je suis dans la première. Dans une rakat, premier rak'a, dans une rak'a. Il y a combien d'encore? Un seul. Dans cela, deux rak'a et deux encore. Donc, Allahu Akbar. Je vais sortir de la. Je vais m'asseoir. Je fais mon encore. Je me remets. Je refais une fatiha. Je refais une salat. Je refais un encore. Je me remets et je passe au sujet. D'accord? Vous m'avez compris? Voilà. Deux fois, tout à fait.
Dans les deux rak'a.
Dans les deux rak'a, exactement. C'est-à-dire, en fait, c'est une prière de deux rak'a, mais qui a quatre rak'a. Avec quatre fatiha et quatre surat. Deux fois, Inch'Allah. Oui. Ouais. Alors, les actes méritoires de cette prière. Les actes méritoires, premièrement, qu'elles soient priées dans une mosquée. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, qu'elles soient priées à voix basse. C'est un acte méritoire. في المسجد نعم وصلى اين صلى صلاه الجمعه او حتى يعني اللي هو بخي اللي ساك بخي او من صلى صلى بخي اولا Ça existait là.
Ouais, j'ai vu ça.
Bon.
L'éclipse, elle est passée hier et il a fait
Non, au moins, si elle était passée, ça fait une heure, quelque chose comme ça, ou bien on n'a pas pu se rassembler, on l'a fait pour répondre à la question. Je ne sais pas qui a posé la question. Un des frères, oui. Allez, c'est-à-dire, mais d'hier, on a perdu aujourd'hui, non. Bon, on n'a pas pu, on a retardé une ou deux heures, l'équipe s'est passée, mais d'hier, aujourd'hui, maintenant.